René Boislève, Le carrosseau de lézard vert. Chapitre 1er. Une espèce de dissertation littéraire sur la meilleure manière de traiter le sujet. Mes lecteurs, j'aimerais mieux bavarder avec vous sans faire d'embarras que de vous laisser tomber, comme la manne, du haut des cieux, un récit qui n'aura peut-être aucun goût, mais se donnera des airs d'avoir été composé par un être sans âge, sans sexe, insoumis aux lois de la pesanteur et de la vie, et écrivant à la façon de Moïse sous la dictée de l'Éternel. Car enfin, si un auteur ne cause pas tout simplement, c'est bien cette attitude surhumaine qu'il se donne. Je sais qu'il y a encore aujourd'hui nombre de gens à qui il ne répugne pas de se laisser duper par une autorité prétendue. Mais comment se fait-il que les mêmes soient acharnés, lorsqu'ils ont lu un livre, à obtenir 1000 renseignements sur la personne de l'écrivain? Ce n'est pas la peine que celui-ci se soit fait passer pour un grand prêtre, un initié, un inspiré, si tout aussitôt il doit vous communiquer son état civil, sa photographie, le menu de son repas, l'aveu de sa fleur préférée. Jeu cruel, qui consiste à se faire d'un homme, durant une heure ou deux, l'image d'une espèce de demi-dieu, et puis à le rabaisser soudain, voire à se délecter de ses petitesses. La vérité est qu'il y a des hommes très grands qui sont plus simples que le premier venu. Les pensées profondes, la haute sagesse, les riches constructions de l'imagination sont l'apanage de bons hommes qui ressemblent à tout le monde et vivent comme vous et moi. Méfiez-vous de ceux qui donnent à leur vie une tournure extravagante. Ce sont probablement des farceurs, de creux comédiens avides de leur et l'âme crédule et qui se dégonflent un beau matin comme des ballons remplis de vent. Souvenez-vous que Corneille portait de fort mauvaises chaussures, que Racine fut bourgeoisement le père d'une nombreuse famille, et Stendhal, un petit consul ennuyé, à Civita Vecchia. Nous n'écrivons pas dans les nuages. Un ange n'est point apparu pour me dire « Prends ta plume et écris aux amateurs éclairés qui, depuis 25 ans, supportent la lecture de tes livres dénués d'intrigues et finissant mal. » Non. Voici comment les choses se sont passées. Je réfléchissais à un sujet de conte, choisi parmi ceux qui se rapportent le plus possible au temps présent. On ne croit guère qu'aux aventures du temps présent, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'on va m'annoncer la visite d'un jeune homme tout à fait moderne. Il venait me confesser qu'ayant jusqu'ici ignoré mes ouvrages, sous prétexte qu'il me tenait pour un monsieur arrivé, il paraît qu'il est tout à fait superflu de connaître les auteurs qui se sont fait une réputation. Il avait été poussé à les lire par le mal extrême que l'on en disait. Et comme il était loyal, il désirait m'avouer que mes livres l'avaient touché. Seulement, et avec beaucoup de politesse et un entrain endiablé, il m'exprima aussi son regret sincère que je n'eusse point coutume de traiter des sujets plus actuels. « Qu'appelez-vous donc un sujet actuel ?» lui demandai-je. « Comment, monsieur » dit-il. « Mais le monde est renouvelé par les découvertes scientifiques, etc. » Et le voilà à m'énumérer les dernières merveilles, avions, torpilles, sous-marins, sans fil, et les gaz asphyxiants récompensés par le prix Nobel. Bref, le roman, par exemple, des ondes hertziennes, traité par l'auteur de La jeune fille bien élevée, lui paraissait désirable. Je trouvais ce jeune homme charmant. Il était intelligent, informé, piqué par le goût de l'innovation, ce qui n'est pas pour me déplaire, et évidemment, seul lui échappait une expérience prolongée de la littérature. Je songeais. A-t-il de la chance? D'abord, il est très jeune, et il attache à une découverte scientifique l'importance que je donnais de mon temps au réalisme dans nos parlottes de débutants. Le sans-fil va plus loin que le réalisme, je le reconnais. Mais que sont ces prétendus perturbateurs au prix d'une ode d'Horace, d'un vers de Ronsard, ou d'une de ces nonchalantes réflexions de Montaigne qui s'enlacent autour de vos membres et vous pénètrent pour la durée de la vie comme le lierre la muraille? Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais qu'une sorte de littérature. C'est celle qui nous entretient de l'esprit et du cœur humain. Les accidents de l'état social ou des mœurs, comme l'esclavage antique, la féodalité au Moyen-Âge, ou le merveilleux scientifique de nos jours, n'ont vraiment d'intérêt que dans la mesure où ils influencent notre manière de penser ou de sentir. Or, les dialogues de Platon, qui ne datent pas d'hier, n'ont jamais flatté davantage l'intelligence. La femme de nos jours est aussi perfide que Circé. Et n'aime-t-on point encore comme faisait Didon? Un monsieur qui nous eût raconté avec stupeur les premiers chemins de fer nous paraîtrait sans doute un peu coco. Je crois bien, moi qui vous parle et qui ai connu les diligences, avoir été un des premiers à narrer un voyage en automobile. Je ne voudrais pas le relire à présent, tandis que l'émoi d'une jeune fille à l'éveil de la première tendresse, qui fut sincèrement écrit il y a 60 ou 100 ans, il me semble qu'il a conservé sa fraîcheur, malgré tout ce que l'ingéniosité des hommes, à leur moment perdu, a ajouté depuis lors aux arts chimiques et mécaniques. Et voyez, s'il vous plaît, comment les choses arrivent, et les hasards singuliers qui déterminent nos écrits. Pendant que mon jeune homme parlait et pendant que je faisais à part moi les précédents retours, que je me gardais bien de lui communiquer parce qu'il se serait moqué de moi, vieille barbe, je prenais la résolution d'abandonner le projet de Comte Choisy, lequel me paraissait tout à coup encore trop rapproché du temps présent, quoiqu'il ne le fût certes pas assez au gré de mon visiteur, et je faisais le serment de conter quelque aventure qui non seulement n'eut aucun caractère scientifique, mais fut aussi invraisemblable que possible. C'est avoir l'esprit mal fait, me direz-vous, c'est procéder par réaction. Hélas, je sais bien que nous n'agissons presque jamais d'autre manière, mais ici, je jure que je ne pensais point à réagir. J'aurais au contraire aimé à contenter mon visiteur. J'étais pour lui plein de reconnaissance, car il venait de m'éclairer en me montrant à quel point j'eusse été sot de donner dans les nouveautés. Mais ce n'est pas une raison pour écrire une histoire invraisemblable. Je vous demande bien pardon. À mesure que la littérature s'opposait pour moi, d'une manière définitive, à l'esprit scientifique, je reconnaissais que la véritable littérature était la littérature invraisemblable. Entendons-nous. Voyons, ne prenez-vous pas en pitié tous ces écrivains qui se donnent un mal affreux pour agencer d'une manière véridique des séries compliquées de faits, lesquelles, si bien imbriquées qu'ils soient, ne signifient rien du tout. Que m'importe 1000 faits ingénieusement combinés qui ne fournissent aucune lumière à mon esprit, aucune émotion durable à mon cœur. Je vous en prie, croyez-moi, ce ne sont pas les faits qui doivent être vraisemblables, c'est le sens qui se dégage des images présentées à vos yeux. Si je vous dis qu'aidé d'un diable, je soulève tous les toits de Paris ou de Madrid, et vous montre la vie des hommes que ces couvertures abritent, le fait est nettement incroyable, mais ne nuit en rien au caractère véridique de l'histoire. Il n'est pas vraisemblable que le chêne n'ait dit jamais quelque chose au roseau. Trouvez-vous que la fable de La Fontaine pêche par la base? Les péripéties de Candide sont insensées. Il n'existe pas, à mon avis, d'ouvrage plus vrai. Ce qui est vraisemblable, hélas, c'est que nous avons été de grands bêtas, en accordant une importance à des éléments qui n'en ont point, et en convertissant, comme nous-mêmes, la littérature au matérialisme. Les faits, ce sont des signes comme les mots. Une littérature qui arrive à conférer des dignités excessives aux mots est proche de la décadence. Si pareils honneurs sont rendus aux faits, la pauvre littérature perd son cerveau. C'est une folle, une innocente de village, et sa chair même n'est pas belle, car c'est la vigueur spirituelle qui lui valut son principal agrément. Mais voilà trop de pédanterie et j'ai hâte d'entreprendre le récit d'une aventure à laquelle il me plaît, je vous en avertis, de donner les apparences de la plus extravagante folie et de la plus surannée. Je ne sais pas si vous avez lu les contes de ma mère Loi. On les connaissait de mon temps, et les grandes personnes n'en faisaient pas fi. Je n'en suis pas autrement entiché, mais leur absence de prétention, leur apparence de s'adresser aux enfants, comme l'œuvre de notre fabuliste, qu'il faut être un grand sage pour comprendre, m'ont toujours séduit. Il vaut mieux avoir l'air de chuchoter de toutes petites choses au niveau de l'oreille des fourmis que de simuler qu'on embouche les trompettes du jugement dernier. Quelqu'un se trouvera un jour ou l'autre pour juger la valeur des choses qui auront été dites, ou d'aussi bas ou d'aussi haut. Veuillez donc me permettre de vous mener au cœur même d'une forêt, non d'une forêt d'aujourd'hui savamment exploitée ou saccagée pour les besoins de la guerre, au cœur d'une bonne forêt d'autrefois, où les arbres croissent à leur gré et ne meurent, la plupart du temps, que de leur mort naturelle. Cela ne forme pas un enlacement de troncs et de branches inextricables, car chaque plante se défend comme un homme, a horreur d'être incommodée par le voisin et tâche à être la plus forte afin d'exterminer qui la gêne. À défaut d'aboutir à cette extrémité toujours tentante pour un être vivant, eh bien, l'on se retire sur soi-même. On raccourcit ses rameaux, on les dirige en hauteur, on se résigne à une taille fluette et un peu trop longue, mais du moins on est seul, et ne se commet point, si l'on est bouleau avec un sapin, si l'on est frêne avec un cornouiller. Les chênes sont maîtres, cela va de soi, et étouffent la jambe myrmidonesque par la musculature de leurs bras et l'épaisse ampleur de leur ombre. Au beau milieu d'une telle végétation, vivaient en bonne intelligence un bûcheron nommé Gilles et sa femme, qui étant demeurés assez longtemps à leur grand désespoir sans enfants, furent tout à coup favorisés de deux filles jumelles, autrement dit Bessonnes, comme il était d'usage de s'exprimer dans ce temps-là au fond des provinces. Le bûcheron Gilles et sa bûcheronne n'étaient pas gens à se mettre en frais d'imagination pour trouver des noms à donner à leurs filles. Ils les appelèrent sans barguigner Gillette et Gillonne. Mais il s'agissait de faire baptiser les deux petites. Quand je vous ai dit que tout ce monde-là gîtait au beau milieu d'une forêt, cela signifie qu'il était très loin de tout hameau ou village. De la chaumière, on n'entendait pas les cloches les plus voisines, même quand le vent portait. Aussi, ce fut une expédition dans le genre de celle des rois mages, lorsque la mère, qui nourrissait les deux marmots, étant relevée de ses couches, se jugea en état d'aller jusqu'à l'église métropolitaine. Il y avait bien quelques huttes de bûcherons dans les environs, où l'on ramassa un parrain et une marraine, peu reluisants à la vérité, mais qui consentirent à faire la route, si l'on peut dire, à pied, et qui, entre nous, n'étaient pas fâchés qu'une occasion s'offrit à eux de voir des lieux habités. L'humble cortège se mit en marche, de très bonne heure, un beau matin, après avoir soigneusement verrouillé les portes. Nos bonnes gens étaient fort aises, parce que le jour qui commençait à poindre devait être celui d'une de ces fêtes de famille dont on se souvient. Mais ils étaient loin de soupçonner qu'ils dussent avoir sujet de se remémorer cette fête-là, et longtemps. Après une marche d'une heure et demie sur la mousse, les champignons et les aiguilles de pin qui rendent le pied glissant, ils s'assirent afin que la mère prît un peu de repos et donna le sein à ses poupons. Et celle-ci donnait le sein droit et le sein gauche tout ensemble, afin de ne point perdre de temps. Et les deux jumelles emmaillotées, comme deux paquets croisés sur les genoux, s'accommodaient de ces doubles coulées et puisaient gloutonnement les provisions maternelles. Gilles, pendant cette opération, s'était écarté avec le bûcheron qui devait remplir les fonctions de parrain et avec quelques autres qui les accompagnaient pour l'honneur. Et tous, ils examinaient en connaisseurs les fûts des hêtres et des chênes, fixant le prix au cours du jour. Tandis qu'ils s'adonnaient à leurs calculs, ils furent distraits par des cris plaintifs issus d'un trou profond, et s'étant approchés de la margelle de ce puits, ils distinguèrent une vieille femme en haillons. « Qu'as-tu, la mère ? » lui dirent-ils. « Est-ce le fait d'une femme de ton âge de passer la nuit à la belle étoile ?»« Hélas, mes bons messieurs, » dit la vieille, « je me suis laissé choir en ce maudit lieu à la tombée de la nuit, qui m'a paru longue, car je pense que j'ai une jambe cassée. Mais que doivent penser, eux, mes pauvres enfants, qui me croient morte à l'heure qu'il est ?» Les bûcherons descendirent dans le trou et se mirent en devoir de tirer de là la pauvresse. Elle poussait des cris de renard pris au piège, à quoi ils reconnurent qu'elle pouvait, selon son dire, avoir quelques membres rompus. Et ils étaient très embarrassés, car enfin ils ne pouvaient pas l'emmener ainsi à la ville, ni chez le rebouteur qui habitait loin en arrière. Alors, sans réfléchir davantage, ils la conduisirent à la mère Gilles, car bien que les hommes médisent ordinairement des femmes, ils vont d'instinct vers elle dès qu'il s'agit de prendre conseil. « Mon Dieu, » dit la mère Gilles, en apercevant l'antique percluse, « il faut remettre le baptême. Ce n'est pas chrétien que d'abandonner une si pauvre femme en plein bois. » Mais la vieille, à la vue des deux Bessonnes, interrompit ses plaintes et dit « C'est à vous, madame, ces deux gentilles petites créatures ?»« Oui, » fit la mère, « et elles prennent bien, comme vous voyez. Ce sont deux filles pour mon malheur. On a du mal à tenir cette engeance-là. Deux garçons auraient mieux fait mon affaire. » « Ne vous mettez point en peine, » dit la vieille. « Je vois que vous êtes de braves gens. » À ce moment, écoutez-moi bien, le jour parut dans toute sa splendeur, par une trouée qui se fit soudain dans les cimes, sous l'influence de l'air matinal. et nul ne sut jamais comment se fit la chose. Les bûcherons furent allégés de leur fardeau, la vieille disparut, tout gémissement s'éteignit, et l'on vit, non sur le sol en vérité, mais bien au-dessus, à la hauteur d'au moins deux tailles d'homme, donc soutenue miraculeusement dans les airs, une dame d'une merveilleuse beauté. Et cette dame, aussi brillante et non moins belle que le jour, s'adressa de là-haut aux bûcherons et aux bûcheronnes fort surpris. Sa voix avait la douceur et le charme du vent qui chante dans les ramures des pins. « Je suis, dit-elle, la fée Malice. Mais n'ayez pas peur de mon nom. J'ai voulu éprouver votre cœur. Je vois qu'il y a encore, par le monde, quelques braves gens, du moins au fond des bois. Vous m'avez secouru. Je ne demeurerai pas en reste avec vous, car, Dieu merci, je suis riche. Allez faire baptiser vos Bessonnes, et à votre retour, vous trouverez une surprise. » Ayant dit ces mots, la fée Malice disparut beaucoup trop tôt, au gré de tous, car nul, parmi les gens présents, n'avait vu jusqu'ici une figure si admirable, ni entendu de paroles si suavement prononcées. Alors un des bûcherons, qui était du cortège, fit mine de vouloir retourner, sans plus tarder, vers les cabanes, car il était anxieux de connaître la surprise qu'avait promise la fée. On l'arrêta par le fond de son pantalon, en lui faisant observer que la surprise n'était pas pour lui, et que s'il n'assistait pas comme tout le monde au baptême, la fée serait bien capable de lui poser une taie sur les deux yeux. Il suivit donc les autres, pas à pas, mais en grommelant, et au bout d'une heure de marche, ayant ruminé dans son esprit de bûcheron, il dit à ses compagnons qui s'entretenaient de l'événement, « Alors, vous y croyez, vous ? À quoi ? Firent-ils tous, hommes et femmes, mais à la fée, le farceur ! Et il voulait retourner sur ses pas pour ne point la perdre. Je voulais retourner boire un coup, faute de quoi je me sens capable d'avoir encore des visions comme une fillette aux pâles couleurs. » Les autres bûcherons furent choqués de son impertinence. Mais ce n'est jamais en vain que l'on entend émettre une idée, si mauvaise soit-elle, et principalement une qui tend à détruire quelque chose. Un autre bûcheron dit « C'est peut-être bien l'éclat du jour qui nous a éblouis, ma foi. » Ébloui ? Ébloui ? Dit la mère Gilles. Et tes oreilles ? Et tes doigts ? Est-ce que tu n'as pas touché la vieille ? N'as-tu pas senti ses os pointus ? Ne s'est-elle pas évanouie pour toi comme pour les autres dans le même moment où la belle dame a paru en l'air et a dit pour nous tous les mêmes choses ? Répète un peu ce qu'elle a dit. » L'un répéta ce qu'il avait entendu, mais il fut contredit par un autre qui avait ouï différemment. Comme on ne réussissait pas à tomber d'accord, l'incrédule bûcheron triomphait. « Moi, je sais bien une chose, dit la mère Gilles, c'est qu'elle a promis de ne pas demeurer en reste avec nous, attendu qu'elle est riche. Et en désignant mes filles, elle nous a annoncé une surprise au retour. » Mais il ne se trouva que son mari pour avoir entendu la même chose, car la bonne promesse s'adressait à son ménage et non point aux autres. Et à mesure qu'il s'accréditait que la surprise était réservée aux Bessonnes, la croyance à la fée faiblissait, et même elle était réduite à néant avant qu'on l'on eût atteint la ville. Tant et si bien que Gilles et sa femme eux-mêmes finissaient par concevoir quelque inquiétude. Cependant, il se produisit en pleine ville une chose étonnante. C'est qu'aussitôt les Bessonnes présentées aux fonts baptismaux, les cloches sonnèrent à toute volée, bien que les pauvres parents n'eussent point eu le moyen de faire les frais du carillon, ce qui causa un grand émerveillement et attira un fort concours d'oisifs alentour de l'église. Or, lorsque le cortège sortit, ne voulait-il pas que des gamins se trouvèrent là, assez proprement habillés, ma foi, et qui semaient des dragées à grands gestes, comme on répand le blé dans les sillons, et ces gamins tiraient ces sucreries de corbeilles toutes neuves, profondes, et que nulle prodigalité n'épuisait. On supposa que les bûcherons avaient de puissants protecteurs dans l'endroit. Cependant, on ne les vit ni monter au château, ni franchir le porche d'aucun hôtel opulent. Ils allèrent tout simplement à l'auberge du Cheval Blanc, mangèrent et burent en gens économes, de quoi ils eurent vif regret, à la vérité, quand, voulant solder leur écho, ils apprirent que le repas était payé. Je vous laisse à penser si tout cela donna lieu à facétie de la part des bûcherons incrédules, qui voulaient bien admettre quelques tours de sorcellerie, quoiqu'ils n'eussent point vu de sorciers, mais qui refusaient d'admettre la fée que, cependant, ils avaient tous vu, touché et entendu.